Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi de nouveau dans l'épître de Paul aux Galates. Et nous allons commencer dans ce message avec le chapitre 2. Et mon texte est du verset 1 au verset 10. Et je voudrais vous parler de la défense de l'Évangile. Prendre la défense, comme Paul a dû faire, de l'évangile de Christ. Il y en a qui disent que l'évangile peut se défendre sans que l'homme prenne la défense. Mais nous sommes appelés à défendre l'évangile devant un monde qui ignore l'évangile et qui est opposé à l'Évangile, comme Paul lui-même à l'époque avait beaucoup d'ennemis. On appelle ça dans la théologie ou bien la philosophie l'apologétique. C'est un gros mot, mais il s'agit simplement de la défense de la foi. Avant de regarder dans Galates chapitre 2, et mon texte, je vous invite à voir dans 1 Pierre chapitre 3 et le verset 15. Ici, c'est un verset classique qui parle de la nécessité de défendre la foi. Et surtout quand les gens nous posent la question. Donc ici, la défense de l'Évangile n'est pas simplement quelque chose que Paul lui-même a dû faire, mais nous-mêmes, comme c'est écrit dans 1 Pierre 3 et le verset 15, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Et le mot sanctifier veut dire glorifier le nom du Seigneur dans nos cœurs. C'est là où l'Esprit révèle Christ dans nos cœurs. Et notons, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Il y en a qui se défendent pour des raisons qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Mais quand les gens nous posent des questions, surtout concernant le Christ que nous adorons et concernant la doctrine du Christ et comment cela se distingue de ce que d'autres croient, donc nous devons être prêts à défendre. Donc c'est dans ce sens que nous allons voir comment l'apôtre Paul lui-même a dû défendre son ministère, défendre le message de l'Évangile qu'il avait à annoncer. Donc commençons ici dans Galates chapitre 2 et les deux premiers versets concernant un voyage ultérieur de Paul à Jérusalem. C'est écrit dans le verset 1, 14 ans après. Je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Notons, je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens, et je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, c'est-à-dire parmi les apôtres, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Ici, après 14 ans, Paul dit, il a remonté à Jérusalem. Dans Galates chapitre 1 et les versets 18 et 19, Paul décrivait un voyage qu'il a fait à Jérusalem 3 ans après que le Seigneur Jésus l'ait rencontré sur le chemin de Damas. Et cela est décrit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9. Mais ici, alors, il décrit un deuxième voyage à Jérusalem 14 ans plus tard. Il était retiré pendant ces années-là, près de 21 ans, si on compte 14 ans et puis 3 ans, enfin 17 ans, pas 21, 17 ans, que l'apôtre n'avait pas un ministère public. Et je crois que pendant ce temps-là, il continuait à étudier les Écritures qu'il avait étudiées même avant sa conversion, mais maintenant, en cherchant Christ à travers ces Écritures, Christ, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, qu'il avait opposé auparavant. Rappelons-nous le point de Paul dans Galates chapitre 1. Il a démontré que son évangile est venu par une révélation de Jésus et non d'un homme. C'est ce que nous avons déjà étudié. Ni même des apôtres de Jérusalem. Aucun apôtre à Jérusalem ne pouvait dire qu'il était la raison pour laquelle Paul s'est converti. Nous savons aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est converti par le Seigneur, il y en a qui aiment vouloir prendre une partie de la gloire pour dire, ah oui, non, bien avant, je priais pour tel ou tel, ou bien c'est moi qui lui ai rendu témoignage d'abord, comme si il s'agissait de nous. Mais tel n'était pas le cas de Paul, et tel n'est pas notre cas. Si nous sommes convertis, c'est entièrement l'œuvre de Dieu du début jusqu'à la fin. Donc, deux visites à Jérusalem pendant 14 ans ont démontré que Paul ne s'asseyait pas aux pieds des disciples de Jésus pour apprendre l'Évangile. C'est ça qui est unique concernant l'apôtre Paul. Tout ce qu'il avait concernant l'Évangile, il a reçu directement de Jésus lui-même. Et donc, il dit ici qu'il est venu et leur exposer l'évangile que je prêche parmi les païens. Voilà ce qui était aussi un scandale pour beaucoup, le fait qu'il allait vers les païens pour annoncer l'évangile et non pas vers les juifs, quoique lui-même, il était un juif. Et c'est écrit dans le verset 1 de Galates 2 qu'il est venu à Jérusalem avec Barnabas et puis ayant aussi pris Tite avec moi. Donc deux personnes dans la vie de Paul qui sont mentionnées ici et avec raison. Voyageant avec Paul à Jérusalem, il avait à la fois Barnabas, et la raison était sans doute que Barnabas était très respecté parmi les dirigeants de Jérusalem, surtout si on regarde dans Actes chapitre 4 et le verset 36 et 37, Actes chapitre 4, c'est écrit ici le rôle de Barnabas et son importance parmi les dirigeants à Jérusalem. C'est écrit Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et il le déposa aux pieds des apôtres. Donc c'était déjà quelqu'un qui était bien connu à Jérusalem, quoique Paul lui-même n'était à ce moment-là pas bien connu parmi les responsables à Jérusalem. Et surtout dans Actes chapitre 11. Si vous regardez Actes chapitre 11, le rôle que Barnabas a joué, c'est écrit dans le verset 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Quel bruit qui est arrivé jusque-là? C'est parce que à Antioche, qui était en Syrie, l'évangile commençait à avoir une ouverture parmi surtout les païens. Vous pouvez lire ça plus haut dans ces versets, que la main du Seigneur était avec eux, verset 21, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Donc ce bruit, les nouvelles en parvinrent aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à l'Antioche. Tel était le rôle que Barnabas avait parmi les responsables. Mais en deuxième lieu, nous avons mentionné ici Tite. Lui, Tite, était un païen qui était converti encore par la grâce de Dieu. Tite était un homme remarquable et un associé de l'apôtre Paul. Il y a un nombre surprenant de passages dans les Écritures qui parlent de l'amour et l'association qu'il y avait entre Paul et Tite. Et c'était quelqu'un en qui Paul faisait confiance et considérait comme un associé précieux. Je sais que tel est notre cas. Ici, dans nos vies, nous avons ceux avec qui nous sommes associés pour une raison qu'il n'y a pas un grand nombre avec qui nous pouvons nous associer. Parce qu'il y a peu qui ont eu la révélation de Christ de nos jours, comme au jour de Paul. Donc, où nous trouvons d'autres frères qui sont prédicateurs que le Seigneur a suscités, pour nous, c'est une chose, une bonne chose pour nous de nous associer à cela. Et on pouvait regarder plusieurs passages où cette relation qu'il y avait entre Paul et Tite sont mentionnés, surtout dans 2 Corinthiens. Voyons quelques-unes de ces références, 2 Corinthiens et le chapitre 2 et le verset 13, par exemple. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 13. Paul dit ici, dans le verset 12 surtout, au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. Donc il le considérait non seulement comme un fils spirituel dans le Seigneur, mais son frère. C'est pourquoi, ayant pris congé de je partis pour la Macédoine. Lorsque Paul était chassé de Corinthe, il avait laissé là pour les nouveaux convertis Tite et Timothée. Et au moment où il écrit maintenant aux Corinthiens, il avait envie d'avoir de ses nouvelles, de leurs nouvelles. Et il avait le souci qu'il portait bien. Ce n'est pas comme de nos jours où nous avons email ou bien nous avons nos téléphones où on peut facilement texter et puis avoir des nouvelles. Rappelons-nous que le courrier au temps de Paul passait de main en main. Et donc, ça nous montre quand même la relation qu'il y avait entre Paul et Tite, surtout dans le ministère. Mais il dit ici, dans mon texte revenant dans Galates chapitre 2, qu'il est remonté à Jérusalem par révélation, selon la direction du Seigneur. Et voilà encore une bonne chose que nous ne nous précipitons pas pour accomplir quoi que ce soit, si ce n'est le Seigneur lui-même qui nous dirige et qui nous envoie. Donc, nous devons être toujours sensibles à ce que le Seigneur indique. Ce n'est pas par une voix orale que nous allons entendre la voix du Seigneur, mais en priant et en demandant au Seigneur la sagesse, c'est ainsi qu'il nous dirige. Si c'était à moi-même, je n'allais jamais quitter l'Afrique. J'avais l'intention d'y rester et de passer ma vie là et même de mourir là-bas. Mais le Seigneur a ordonné autrement à travers des circonstances qui m'ont amené dans cette ville que je ne connaissais pas du tout, Shreveport. Et cela, il y a près de 28 ans maintenant, je suis ici. C'est selon la direction du Seigneur. Et je peux dire que chacun de vous, en tant que prédicateur, vous êtes exactement là où le Seigneur vous a placé. Et donc, c'est selon sa direction, selon ce qu'il ordonne, qu'il nous déplace. Donc, c'est ce que Paul dit ici dans le verset 2, après 14 ans. C'est maintenant qu'il est arrivé à monter à Jérusalem. Donc, il est allé sous la direction expresse de Dieu. Il n'est pas allé parce que quelqu'un l'a appelé à venir, même jusqu'à ce temps-là, pendant 14 ans, beaucoup se méfiaient de Paul. On n'allait pas l'inviter parce qu'il n'était pas sûr réellement de s'il était véritablement converti ou non. Parce qu'il faut rappeler que c'est lui qui allait de ville en ville persécuter et mettre en prison ceux qui s'identifient avec cette foi de Christ. Donc, pendant ce temps, le Seigneur était en train d'enseigner Paul à part, le contact avec d'autres, et au moment ordonné par Dieu, c'est là qu'il est allé. C'est parce que Dieu l'avait indiqué de partir. Nous ne savons pas comment exactement il a reçu cette révélation de Dieu, mais c'était évident que c'est Dieu lui-même qui l'a conduit à Jérusalem. C'est ainsi arrivé là, dans le verset 2, Galates 2, que nous voyons son rôle, son but d'aller. Il n'est pas parti pour se défendre ou donner son témoignage, comme si maintenant il devait convaincre qui que ce soit. Mais il est parti, comme c'est écrit, pour leur communiquer l'évangile qu'il prêchait parmi les païens. Ce voyage à Jérusalem est très probablement celui mentionné dans Actes 11. Regarde la place ici, mais revenons dans Actes chapitre 11. Et les versets 27 à 30. Ici, c'est écrit, en ce temps-là, des prophètes descendaient de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Et verset 30, ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas, notons, et de Saul, c'est-à-dire Paul. Donc, à ce moment-là, Paul a apporté un don des croyants d'autres villes et c'était pour le bien des croyants de Jérusalem qui souffraient de la famine. Ça nous situe un peu du contexte historique. Donc, lorsque Paul était à Jérusalem à cette époque, il a eu l'occasion d'assurer les dirigeants qu'il obéissait à Dieu dans la présentation de l'Évangile aux païens. C'était toujours une question, pourquoi est-ce qu'il allait annoncer l'Évangile aux païens? Mais c'est selon ce que Dieu lui-même a dit. Christ, lorsqu'il est, avant de monter au ciel, leur a dit d'aller attendre à Jérusalem. Et lorsque l'Esprit s'est revenu, l'Évangile devait être apporté d'abord de Jérusalem en Samarie et de Samarie maintenant jusqu'aux différents coins du monde. Mais c'est à cette époque qu'une controverse a surgi concernant la place des païens dans l'Église. Jusque-là, alors, les Écritures étaient pour la plupart adressées aux Juifs. Mais puisque les Juifs ont rejeté le message de Christ dans les Écritures qu'ils avaient, c'est là que Dieu a ouvert la porte vers les païens. Et ça continue comme ça jusqu'à aujourd'hui. Que la nation juive, ceux qui sont des Juifs selon la chair, continuent à rejeter Christ comme le Messie. Et donc, Dieu a utilisé Pierre pour accueillir les païens dans l'Église, surtout selon Acte 10. Qui peut oublier cette vision, cette révélation que Dieu a donnée à Pierre d'aller annoncer le message de Christ dans la maison d'un certain Corneille, et comment Pierre avait résisté au début, mais en fin de compte a réalisé que non, même parmi les païens, Dieu avait ses élus, parce que les Juifs n'avaient pas l'habitude de fréquenter les païens, les Juifs à part, les païens à part. Et c'est ce que Pierre avait dit au début, qu'il n'avait jamais mis pied dans la maison d'un païen jusqu'à ce moment-là. Mais Dieu lui a dit que ce qu'il a appelé pur, il ne faut pas que Pierre considère comme impur. Donc tout a pris son départ de là. Ça nous montre un peu le conflit qu'il y avait à cette époque. Mais certains croyants d'origine juive ont dit que les païens pourraient en effet être sauvés s'ils se faisaient d'abord juifs. Voilà comment les choses ont évolué. Ils ont accepté que oui, les païens pouvaient faire partie de l'Église, mais qu'ils devaient se soumettre à la loi de Moïse. Et donc, on voit encore une perversion de l'évangile, parce que l'évangile de Christ, l'évangile que Paul avait à défendre, est un évangile de grâce, gratuitement donné à cause de Christ à quiconque croit, c'est-à-dire ceux à qui Dieu lui-même donne cette croyance. Et voilà la nature de l'homme de vouloir toujours mettre des conditions, placer des conditions et en se faisant ajouter à l'Évangile. Leur idée était que le salut en Jésus était réservé d'abord au peuple juif. Et c'est comme ça, beaucoup raisonnent même aujourd'hui. Ils pensent que le peuple juif reste toujours le peuple favorisé de Dieu, mais tel n'est pas le cas. Que Le véritable Israël consiste en tous ceux, juifs ou grecs, que Christ a rachetés par son sang et que le Père lui avait donné avant la fondation du monde. Mais la pensée était que le peuple juif était en fait le véritable peuple de Dieu et que les païens alors devaient devenir juifs avant de pouvoir devenir chrétiens. Mais nous savons que tel n'est pas le cas. Mais c'est ça, c'est pour ça, revenant dans Galates chapitre 2, que Paul devait non se défendre lui-même, mais défendre l'évangile. C'est comme ça c'est écrit. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Et je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, c'est-à-dire les dirigeants, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Ici, sachant qu'il y avait cette controverse qui existait, alors Paul a trouvé bien d'utiliser ce moment où il avait apporté ses dons pour les croyants de Jérusalem et trouvait bon à ce moment-là d'expliquer, surtout aux dirigeants de l'Église de Jérusalem. Et certainement, ceux-là voulaient aussi savoir. Rappelons-nous qu'ils n'avaient pas consulté cela dès le début. Donc, c'était aussi pour une occasion pour eux de mieux connaître l'apôtre Paul. Donc, c'était le moment idéal. Et c'est comme ça Dieu œuvre dans sa providence pour que son œuvre puisse prospérer. C'était le moment idéal pour de leur dire. Et donc Paul a communiqué l'évangile, expliqué. Ça, c'est sa défense de l'évangile qui prêchait parmi les nations. En privé, il a fait ça, et envers ceux qui avaient une réputation ou bien qui étaient connus comme les dirigeants de l'Église. Paul savait qu'il avait le véritable évangile. Et il savait que c'est Dieu qui l'avait suscité pour annoncer cet évangile. Donc l'homme, aucun homme ne pouvait le détourner de ce qu'il prêchait. Mais peut-être qu'il y avait certains de ses responsables qui ne comprenaient pas bien le rôle de Paul, qu'il a dû s'expliquer davantage, mais il a fait en privé. C'est ça l'idée que nous avons ici. Il n'a pas ouvert un débat public à ce sujet. Mais s'il y avait une confrontation à faire, Paul l'a fait en privé à ceux qui avaient ils étaient les plus considérés, comme c'est écrit là, et n'a pas voulu embarrasser qui que ce soit à ce sujet. Je crois que ça démontre l'amour que nous devons avoir, surtout envers certains qui se disent dirigeants, responsables d'Église, mais qui ne comprennent pas le message de l'Évangile que Dieu nous a donné à annoncer. Notre but n'est pas de les embarrasser publiquement, mais de les exhorter, priant que de la même manière que Dieu nous a accordé la repentance pour savoir le message de Christ et l'annoncer que si eux aussi, ils appartiennent au Seigneur, qu'ils allaient agréer et ils allaient vouloir s'associer avec nous dans l'Évangile. C'est la seule manière qu'il peut avoir une association. Les gens nous poussent toujours à les joindre. Il y a toujours cette pression parce qu'ils ont leur organisation et ils veulent que nous nous joignions à eux. Mais si le fondement n'est pas l'Évangile, si eux-mêmes, ils n'ont pas bien compris le message de l'Évangile, donc on ne peut pas s'associer. Ici, dans le verset 2, Paul dit, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Nous savons que rien dans la providence de Dieu n'est fait en vain. Mais je crois que c'est une manière de parler. Ça ne venait pas probablement de la crainte qu'il ne tombe lui-même. Il n'avait pas peur de cela, mais plutôt c'était la crainte qu'un conflit inutile avec les dirigeants de l'Église de Jérusalem puisse nuire d'une manière ou d'une autre à sa réputation et à son ministère, surtout parmi les païens. Il avait à cœur ses brebis, il avait à cœur ses élus qu'il avait rencontrés dans les autres pays. Et donc, il ne voulait pas que quelque chose que ce soit empêche cette œuvre. Nous savons que rien ne peut empêcher, mais ici, il parle humainement, qu'ayant planté, semé la semence dans ces différents lieux parmi les nations, que cette œuvre puisse continuer sans contrainte. C'est maintenant dans les versets 3 et 5 que nous voyons l'importance de Tite. Et nous avons ici une question de la circoncision de Tite. Verset 3, c'est écrit, mais Tite qui était avec moi et qui était grec, il n'était pas juif, ne fut pas même contraint de se faire circoncis. Paul n'a pas pensé, lorsqu'il a pris Tite avec lui pour s'associer avec lui, qu'il allait d'abord encourager Tite de se faire circoncis pour ne pas offenser les Juifs, parce que la circoncision, nous savons, l'acte de la circoncision était très important pour les Juifs. Et je sais que si ceux de Jérusalem voyez Paul, ils allaient peut-être poser la question, mais hey, Tite, est-ce que tu lui as fait circoncis? Mais il dit ici dans le verset 4, cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Nous allons faire face à ces mêmes conflits de nos jours où, pour que les gens acceptent le ministère que le Seigneur nous a donné, ils vont vouloir que nous plions les genoux à certaines de leurs exigences pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais Paul insiste que, quelle que soit la pression, il fallait que l'Évangile soit librement prêché. Donc, c'est pourquoi il fait mention ici de Tite, que même Tite, qui était avec lui, étant grec, n'était pas obligé de se faire circoncire. Ce que Paul veut dire, c'est que les dirigeants de Jérusalem ont accepté Tite, qui était un païen converti, même s'il n'était pas circoncis, conformément à la loi mosaïque. Voilà où on commence à voir une séparation entre ceux qui voulaient en même temps prêcher Christ, mais en même temps tenir les règlements de la loi. On ne peut pas tenir les deux, soit que Christ a tout accompli ou bien l'homme est toujours sous l'obligation de la loi. Et comme il va dire plus tard, ici dans Galates chapitre 4, si quelqu'un veut tenir à la loi, donc il est toujours sous la malédiction. Parce que si un homme peut obéir à la loi en tout, sauf un seul point, il est coupable de tout. C'est pourquoi nous ne prêchons pas la loi. Christ est venu, il a tout accompli. Mais ce fait que les responsables de l'Église de Jérusalem ont accepté Tite même dans un état étant non circoncis, cela prouve que ceux-là aussi avaient déjà accepté l'évangile de la grâce, tel que Paul le communiquait. Donc, c'est le Seigneur qui a fait cela. Il avait déjà préparé le chemin et a prouvé que cette association entre Paul et les responsables était sur la base de la grâce de Dieu seul et non pas sous des conditions. Comme on voit ici, ceux qui démontraient leur opposition, Paul, dans le verset 4, les appelle de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Voilà une indication pour nous aujourd'hui. Quand les gens veulent contester le message de la grâce que nous avons à annoncer, il faut penser que ceux-là sont des croyants, mais d'un autre point de vue, non? Ce sont des faux frères. Si nous annonçons Christ, que Christ a tout accompli et que c'est lui qui est l'accomplissement de l'Ancien Testament dans tout ce qui est prescrit là. Et souvent, comme au temps de Paul de nos jours, ce sont les responsables qui contestent. Le peuple qui est sous la tutelle de ces hommes-là, ils suivent selon leurs responsables, mais j'ai trouvé que le peuple se réjouit de ce message de liberté, comme c'est écrit là par Paul. Ce message de liberté, mais ce sont des faux frères qui veulent imposer leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. C'est significatif que Paul qualifie ces hommes comme de faux frères. Et effectivement, ils sont. C'est un titre sévère. Bien entendu, ils ne se considéraient pas comme de faux frères eux-mêmes. Ils se considéraient comme de vrais frères, mais parce qu'ils opposaient et contredisaient l'évangile révélé à Paul par Jésus-Christ, ils étaient en réalité de faux frères. Et cela, selon le critère que nous avons déjà vu dans Galates chapitre 1, à partir du verset 6 à 9, où Paul, dans le verset 8, dit, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc déjà, nous voyons la nécessité d'appliquer ce qu'il a dit. Il est significatif que Paul dise que ces hommes ont été emmenés en privé ou bien en secret. Et c'est ça le sens d'entrer furtivement. Ils ne sont pas venus avec des bannières annonçant faux frères, mais ils ne sont pas venus nécessairement avec une déclaration d'intention disant, nous sommes venus espionner votre liberté en Jésus et vous mettre en esclavage. Quand les gens rentrent parmi nous, ce n'est pas comme ça qu'ils entrent. Ces hommes avaient probablement les meilleures intentions du monde, comme certains qui viennent parmi nous et après avoir écouté pendant un certain temps, disent, ah, mais dis donc, ici on ne prêche que Christ, Christ, Christ. Il va falloir que nous enseignions aux gens un peu la loi, les préceptes de la loi. Mais ce sont ceux-là qui sont les plus dangereux. Et laisser continuer, ils allaient certainement détourner plusieurs. Donc, ils sont venus secrètement. Et c'est significatif que Paul dise que ces hommes pouvaient, avec le temps, servir beaucoup. Pour Paul, il ne s'agissait pas seulement d'un problème entre les faux frères et les païens, mais entre les faux frères et ceux qui étaient dans l'assemblée. Donc, c'est avec intention que Paul voulait protéger par amour pour Christ, par amour pour l'assemblée, qu'il voulait protéger l'assemblée de ses faux frères. Nous allons devoir arrêter maintenant avec le verset 6, où Paul résume son point de vue. Il dit, ceux qui sont les plus considérés, qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acceptation de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Ça, c'est une bonne chose pour nous, de ne pas regarder à l'homme, de ne pas regarder à certains qui sont considérés par les hommes et essayer de vouloir les apaiser en se soumettant à leurs exigences. Non, l'évangile que l'apôtre Paul prêchait, d'abord, il a reçu de Christ et non pas de l'homme. Et c'est la même chose pour nous. Nous ne prêchons pas ce que nous prêchons ayant reçu ce message des hommes ou bien d'une organisation. Non, ça vient de la parole de Dieu. Et cette parole n'est autre que Christ. C'est pourquoi avant de prêcher quelques passages que ce soit, nous nous asseyons, nous prions que le Seigneur nous ouvre davantage les yeux et que nous voyons Christ à travers chaque passage, chaque verset. Et puis nous nous levons pour l'annoncer sans tenir compte de ce que d'autres peuvent penser ou bien d'autres enseignements sous lesquels les gens se trouvent. Et c'est pourquoi Paul le dit, ce qui semblait être quelque chose ne m'importait rien. Les hommes sont toujours en train de respecter les hommes et élever les hommes et suivre les hommes. Mais Paul dit ici, ce qui semblait être quelque chose ne m'apportait rien. Si quelqu'un pense qu'il est quelque chose, pourtant il n'est rien. Donc la gloire doit toujours revenir à Christ et non pas à l'homme. Donc Paul n'a pas attendu quelqu'un d'autre pour faire de lui un croyant. Il savait que cela, le verset 6, se résumait à une révélation de Dieu directement en lui, et cette révélation consiste du Seigneur Jésus-Christ et de son œuvre accomplie à la croix, bien que Paul, avant de se convertir, il était à la tête de ceux qui s'opposaient à Christ et qui ont crié, crucifie, crucifie-le, crucifie-le. Pourtant, lorsqu'il a plu à Dieu de révéler en Christ, c'est ainsi qu'il est allé l'annoncer parmi les païens. Nous avons vu ça dans Galates 1, 15 et 16. Et donc, c'est pour dire que sa foi ne se reposait pas sur ce que les autres faisaient pour lui. Et tel est notre témoignage. Si effectivement nous prêchons Christ, notre défense de cet évangile, c'est que c'est Christ lui-même qui nous a enseigné. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, les paroles de Paul ne sont ni un déni, ni une marque de manque de respect envers d'autres, mais il indique simplement que pour lui, bien qu'il n'était pas nécessairement accepté comme apôtre de Jésus-Christ à cette époque, et il disait simplement qu'il n'était pas intimidé par la personne qui se glorifiait étant des faux enseignants. Et nous non plus, nous ne devons pas être intimidés. Il y en a qui veulent nous intimider. Ils disent, ah, mais nous avons les appellations de docteur ou bien de révérend et tout cela. Mais devant Dieu, ça, c'est rien. En fait, c'est une opposition à Christ lui-même, parce que c'est Christ seul qui doit recevoir toute la gloire. Donc nous avons arrêté là, nous allons arrêter, nous arrêter, et puis reprendre la prochaine fois à partir du verset 7, où nous voyons comment les dirigeants de l'Église de Jérusalem ont approuvé, se sont associés avec le message de Paul. Et cela parce que c'est Dieu qui a donné cette unité dans l'Évangile, où nous trouvons d'autres que Dieu a déjà enseignés dans cet Évangile. Je dois dire que cette unité est pure et faite. Et nous réjouissons là où Dieu nous donne cette unité. Amen.